Imaginons un instant un secteur industriel lourd, genre avec des usines, des machines super complexes, une flotte de camions.
Ouais, le genre de truc qui demande des capitaux massifs, quoi.
Exactement. Et imaginons que l'intégralité de cet investissement initial puisse être remboursée en moins de 10 mois.
Moins de 10 mois. Bah, instinctivement, mon esprit se tourne vers des technologies de rupture. Tu vois, l'intelligence artificielle ou peut-être la crypto.
C'est ça, on pense tout de suite à des bureaux en verre dans la Silicon Valley avec des ingénieurs partout.
Carrément.
Pourtant, le secteur qui affiche de tels rendements financiers en cette année 2026, bah, il est infiniment plus terre à terre.
Ah ouais?
Ouais, on parle ici très concrètement de broyer des céréales pour nourrir des poulets et des vaches.
C'est fou. C'est un décalage fascinant entre la perception publique de ce qui est lucratif et la réalité économique.
Mais tellement! En fait, les véritables moteurs de rentabilité, ils se trouvent souvent dans ces industries de l'ombre, celles qui soutiennent nos besoins quotidiens les plus basiques, quoi.
C'est clair. Et derrière cet aspect un peu brut de la fabrication d'aliments pour animaux, bah, y a une mécanique financière et logistique qui est redoutable et qui est surtout intimement liée à des enjeux vitaux de sécurité alimentaire.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se lance dans une exploration en profondeur de ce marché qui opère vraiment loin des projecteurs.
Super programme.
Notre dossier du jour, il s'appuie sur des données très granulaires. Ça vient d'un document d'investissement ultra exhaustif, publié par la plateforme marocaine monprojet.ma en août 2026.
D'accord, donc c'est très récent et très localisé.
Exact. Et la mission de notre analyse détaillée, c'est de décrypter comment la production d'aliments composés pour le bétail et la volaille au Maroc génère des marges bénéficiaires aussi spectaculaires.
Parce que c'est pas juste une question de vendre du grain, en fait.
Non, pas du tout. On va voir la stratégie qui permet à de toutes petites usines locales de terrasser de véritables mastodontes de l'agro-industrie.
Et de voir ce que cette dynamique révèle sur la métamorphose de notre chaîne alimentaire, finalement.
Voilà. Alors, par où on commence?
Ben, avant de plonger dans les stratégies d'entreprise ou les bilans comptables, je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure du terrain de jeu.
Ouais.
Parce que l'échelle de ce marché est tout simplement phénoménale. Et ça explique en grande partie l'attractivité du secteur pour les capitaux.
Ok, alors décortiquons tout ça. Pour saisir pourquoi un tel marché existe, bah, il faut s'intéresser au volume de la demande.
Et les chiffres donnent le vertige.
C'est le mot. On parle d'un marché national qui dépasse allègrement les 7 millions de tonnes de production annuelle.
7 millions de tonnes.
Et sur cette montagne d'aliments, il y a un chiffre qui saute aux yeux. C'est 5,5 millions de tonnes qui sont englouties exclusivement par la filière avicole, donc la volaille.
C'est énorme. Mais ces volumes prennent tout leur sens quand on regarde la démographie animale du pays, en fait.
Vas-y, dis-nous.
Le Maroc produit plus de 300 millions de têtes de volaille chaque année.
300 millions!
Ouais. Et à cette armée de volailles, bah, il faut additionner un cheptel bovin aux vins et caprins qui dépassent de loin les 30 millions de têtes.
Ah ouais, d'accord.
Donc c'est une population titanesque qu'il faut nourrir de manière ininterrompue, genre 365 jours par an. Le besoin, il est permanent, il est incompressible.
Mais du coup, comment on en est arrivé à une telle dépendance envers l'industrie pour nourrir ces animaux?
Bah, le climat joue un rôle énorme.
Exactement. Il y a un coupable évident. Historiquement, l'élevage reposait énormément sur le pâturage, tu vois, sur les fourrages naturels.
Oui, les animaux broutaient ce qu'il y avait dehors.
Voilà, mais c'était la loterie de la météo. Avant, élever des moutons ou des vaches, c'était espérer qu'il pleuve assez pour que l'herbe pousse.
Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça.
Ben non. Avec la multiplication des années de sécheresse sévère, cette époque est complètement révolue. En fait, on est passé à un modèle qui ressemble au concept de meal prep.
De meal prep, genre la préparation de repas à la rance pour la semaine.
C'est ça. Au lieu de laisser l'animal chercher sa nourriture dans une nature asséchée, l'industrie lui livre une boîte de repas parfaitement calibrée, riche en protéines, en vitamines, tout ça sur mesure.
C'est une super analogie. L'industrie de l'aliment composé est littéralement devenue l'assurance vie de l'éleveur.
Carrément.
Parce que quand les pâturages disparaissent, ces granulés industriels garantissent non seulement la survie du bétail, mais aussi, et c'est crucial, une croissance optimale.
Grâce à une qualité nutritionnelle constante, c'est ça?
Exactement. Face à un climat devenu totalement imprévisible, bah, l'aliment industriel, c'est plus un supplément de confort. C'est la fondation même de la production de viande.
Et cette production de viande, elle est sous pression à cause de l'évolution de nos sociétés.
Comment ça?
Bah, l'urbanisation rapide, l'exode rural, les changements de mode de vie, tout ça fait exploser la demande en protéines animales. La consommation de viande blanche au Maroc, par exemple, elle a franchi un cap impressionnant.
On est à combien?
On dépasse désormais les 22 kilos par habitant et par an. La volaille, c'est vraiment devenu la protéine de base des foyers.
C'est fou. Mais si on relie ça à une image plus large, on observe une convergence de forces macroéconomiques qui sont extrêmement puissantes.
Ah oui, c'est-à-dire?
D'un côté, le climat détruit les ressources naturelles gratuites. Et de l'autre, la pression démographique et l'urbanisation exigent toujours plus de viande.
C'est l'effet ciseau.
Exactement. Le résultat, c'est un déficit structurel chronique de la production nationale d'aliments pour animaux. Et pour couronner le tout, cette industrie bénéficie d'un soutien institutionnel massif.
Via l'État, tu veux dire?
Ouais, à travers la stratégie étatique Génération Green 2020-2030. Ça offre de multiples subventions, notamment sur l'importation de matières premières clés, genre le maïs et le soja.
Ok, donc c'est vraiment la configuration parfaite pour créer ce qu'on appelle une clientèle captive. L'éleveur n'a plus d'autre choix que d'acheter, et l'État encourage la production.
C'est le terreau idéal pour faire du business.
Et c'est là que ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant.
Ah.
Parce que logiquement, face à un Eldorado pareil, subventionné en croissance continue de 4 à 6% par an, la réaction immédiate, c'est de se dire que les multinationales ont déjà tout raflé.
Qu'elles ont monopolisé chaque centimètre carré du marché.
On parle de géants de l'agro-industrie comme Zalar, Alsael, Inam ou Koutoubia Feed. Ils dominent le paysage.
Avec des usines immenses.
Ouais, leurs usines produisent chacune plus de 100 000 tonnes par an. Donc face à ces titans, comment une petite usine de quartier peut-elle espérer survivre?
La réponse, elle réside dans la friction logistique.
La friction logistique?
Ouais. La grande vulnérabilité de ces colosses industriels, c'est leur centralisation.
D'accord.
Tu vois, une usine géante située près de Casablanca ou d'El Jarida, elle bénéficie d'économies d'échelle formidables quand elle fabrique. Mais ensuite, elle doit expédier des milliers de camions à travers tout le royaume.
Vers des régions montagneuses, des plaines reculées?
Exactement. Et ce réseau de distribution hyper complexe, ça engendre des délais de livraison très variables. Et ça les oblige à produire des formules nutritionnelles super standardisées pour plaire au plus grand nombre.
Ok, je vois. Mais justement, penchons-nous sur les prix. Parce que c'est là que le modèle est le plus contre-intuitif pour moi.
Ah oui, les prix, c'est le cœur de la guerre.
Les grands groupes, ils vendent leurs aliments entre 3,50 et 5 dirhams le kilo. Or, l'analyse de monprojet.ma démontre qu'une petite unité de production locale, avec une capacité modeste de 5 000 à 20 000 tonnes par an...
Ouais, avec un rayon d'action de 100 ou 200 kilomètres.
Voilà, elle réussit à casser les prix. Elle propose son produit entre 3,20 et 4,90 dirhams le kilo.
C'est dingue!
Mais comment c'est possible? Un acteur local qui n'a clairement pas la capacité d'acheter du maïs par cargos entiers sur les marchés internationaux, comment il peut offrir un prix final inférieur à celui du géant?
C'est ça qui est fascinant. C'est l'impact dévastateur du fameux dernier kilomètre en milieu rural.
Ah, les frais de livraison.
Exactement. Les avantages obtenus par le géant industriel lors de l'achat en vrac de ses matières premières, ils sont littéralement pulvérisés par les coûts de transport.
Genre l'essence, les péages.
Ouais, payer le gasoil, l'usure du pneu, l'entretien des camions sur des routes secondaires qui sont parfois très difficiles d'accès pour livrer des fermes isolées, tout ça, ça gonfle le prix final.
Et la petite usine, elle n'a pas ce problème.
Non. L'usine locale, elle est implantée à les quelques dizaines de kilomètres de sa clientèle. Elle esquive presque totalement ses frais d'approche.
D'accord. Donc le colosse perd toute son avance stratégique sur le bitume des routes de campagne.
C'est joliment dit, mais c'est exactement ça.
Mais l'avantage du petit acteur, j'imagine que ça ne se limite pas qu'au prix du transport, non?
Non, il y a aussi une dimension de service hyper personnalisée.
C'est-à-dire?
L'usine de proximité, elle a la souplesse d'ajuster ses mélanges. Elle peut créer... des formules sur mesure adaptées aux spécificités du climat local, ou même de la race d'animaux élevés dans cette zone très précise.
C'est le côté meal prep dont on parlait.
Voilà. Et souvent, ils embauchent un nutritionniste animalier au sein même de la petite unité.
Oh, malin.
Oui, ça permet d'offrir un conseil technique direct et surtout gratuit aux éleveurs environnants.
Ce qui est un levier de fidélisation imparable.
Totalement. L'éleveur ne perçoit plus l'usine comme un simple fournisseur lointain. C'est un partenaire de proximité qui optimise la croissance de son cheptel, quoi.
C'est un niveau d'intimité commerciale qu'un énorme conglomérat situé à 500 km est juste structurellement incapable d'offrir.
C'est impossible pour eux.
Ok, donc on bat l'industrie de masse par l'hyperlocalisme et le conseil. Mais maintenant que l'on comprend pourquoi le petit acteur gagne, j'ai envie qu'on entre dans la mécanique financière.
Les gros chiffres.
Voilà. Qu'est-ce que ça coûte de monter une telle usine et surtout, comment l'argent rentre-t-il?
Alors, l'analyse présente deux scénarios d'investissement très précis.
Ah oui, le starter et l'avancée.
C'est ça. L'approche financière dépend fondamentalement de tes capitaux de départ.
Commençons par le profil starter. Ça s'apparente vraiment à une entrée, on va dire, agressive sur le marché.
Avec des coûts maîtrisés?
Ouais. L'investissement initial est de 2,5 millions de dirhams. Ça permet de mettre en place une unité semi-automatisée.
Ce qui donne quelle capacité?
Ça sent environ 2 à 3 tonnes de granulés par heure, donc ça fait un plafond annuel autour de 5000 tonnes.
Ok.
Et c'est là que les projections deviennent folles. Chiffre d'affaires mensuel, 1,6 million de dirhams.
Ah ouais, mensuel.
Pour un bénéfice net mensuel de 220 000 dirhams, ça représente une marge nette de 14%.
14%, ouais.
Et le plus dingue, le fameux retour sur investissement pointe à seulement 12 mois.
Un an pour rembourser l'usine entière, c'est incroyable.
C'est fou, hein?
Et cette marge de 14%, pour une unité semi-automatisée, ça s'explique surtout par la faiblesse des frais généraux initiaux.
Ils font très attention aux coûts fixes.
Voilà. Les coûts structurels sont minimisés au maximum, l'équipe est restreinte, et surtout, la production est vendue en flux tendu.
Ce qui limite les coûts de stockage des produits finis, j'imagine.
Exactement. Tu produis, tu livres, tu encaisses.
D'accord. Mais ensuite, il y a le passage à la vitesse supérieure. Le fameux scénario avancé.
Là, on change de dimension.
Carrément. Ici, on mobilise 8 millions de dirhams. On entre dans l'ère de la pleine automatisation. La ligne de production, elle est capable d'engloutir et de transformer 15 000 à 20 000 tonnes par an.
Et le projet intègre même son propre laboratoire de contrôle qualité, non?
Exact. Et du coup, le chiffre d'affaires mensuel bondit à 5,04 millions de dirhams, ce qui dégage un bénéfice net spectaculaire de 840 000 dirhams chaque mois.
Waouh.
La marge grimpe à 17% et le retour sur investissement est écrisé à 10 mois. 10 mois.
C'est là qu'on voit que l'augmentation de la marge de 14 à 17%, bah, c'est pas qu'une simple question de volume.
C'est quoi d'autre?
C'est l'efficience technologique qui entre en jeu. L'automatisation réduit les pertes de matière, ça optimise la consommation énergétique des broyeurs, tu sais, des presses à granulés, et ça diminue les coûts de main-d'œuvre par tonne produite.
Ah, je vois.
Et le laboratoire intégré dont tu parlais, bah, ça évite les rejets de l'eau non conforme. Ça garantit une qualité irréprochable du premier coup.
Ce qui consolide la réputation de l'usine et justifie de garder des prix fermes.
Voilà.
Mais quand même, il faut vraiment insister sur ce retour sur investissement de 10 mois pour les personnes qui nous écoutent.
Oui, c'est très inhabituel.
Pour faire le parallèle, dans le secteur immobilier ou l'industrie manufacturière classique, construire un bâtiment, couler du béton, importer des machines industrielles lourdes, bah c'est s'engager pour 7, 10, voire 15 ans avant de voir le premier dirham de vrais bénéfices.
C'est le standard, ouais.
Or ici, l'usine est intégralement payée par ses propres bénéfices avant même de fêter son premier anniversaire.
C'est fascinant. Mais tu sais pourquoi c'est possible?
Pourquoi?
Parce que c'est rendu possible par le rythme effréné de la biologie animale.
Ah oui, le cycle des poulets.
Voilà. Un poulet de chair moderne accomplit son cycle de vie en seulement 42 jours.
42 jours.
Durant ce cycle très court, bah, ce poulet va consommer entre 3,5 et 4 kg d'aliments.
Ce qui fait que l'éleveur remplit son bâtiment, les poulets mangent, grandissent, partent à l'abattoir.
Et paf, l'éleveur recommande instantanément des dizaines de tonnes de nourriture pour le lot suivant.
C'est un mouvement perpétuel, en fait.
C'est exactement ça. La récurrence de la demande est vraiment le moteur de cette vélocité financière. Bon, à condition, bien sûr, d'atteindre un taux d'utilisation de l'usine d'au moins 80% dès le sixième mois d'activité, hein.
Bien sûr, il faut que ça tourne.
Mais bon, il est quand même impératif d'apporter une nuance de taille à cette euphorie comptable.
Il y a un piège.
Bah, si la vente semble hyper fluide, le véritable centre de gravité des coûts se trouve en amont.
Au niveau des achats?
Oui. L'achat des matières premières, le maïs, le tourteau de soja, le son de blé, ça accapare entre 70 et 80% du coût total de production.
Ah oui, c'est le nerf de la guerre. Sans ces ingrédients de base, la presse à granuler, elle tourne à vide.
Et ces ingrédients, bah, ils ne s'achètent pas au coin de la rue.
Non.
Ils sont soumis aux cours fluctuants des bourses mondiales de matières premières, comme celle de Chicago, par exemple.
Oui, donc une mauvaise récolte au Brésil ou une crise géopolitique en Europe de l'Est.
Et bah, ça fait instantanément flamber le prix du maïs à Casablanca.
Ah, je vois. Par conséquent, pour sécuriser cette fameuse marge de 17% dont on parlait, il ne suffit pas d'être un as de l'aventural.
Non, pas du tout.
Il faut être un gestionnaire des achats impitoyable, quoi, capable de lire les marchés à terme, de couvrir ses risques.
Et surtout de constituer des stocks de sécurité de 2 à 3 mois lorsque les cours sont favorables. L'intelligence financière du projet, elle se joue autant dans l'anticipation des marchés mondiaux que dans l'optimisation des machines.
D'accord, donc l'usine, elle est connectée en direct au pool de l'économie mondiale.
En permanence.
Ce qui nous amène aux réalités du terrain et aux obstacles un peu cachés. Car bon, si on pouvait rembourser une usine de 8 millions en 10 mois sans aucune sueur, ces unités pousseraient comme des champignons dans chaque village.
Ce qui n'est pas le cas. L'entrée sur ce marché est pavée de barrières, qu'elles soient administratives ou opérationnelles. Ça exige des nerfs d'acier.
J'imagine. La première épreuve de force, elle commence avant même le premier coup de pioche, avec un vrai labyrinthe réglementaire.
Un labyrinthe qui peut paralyser l'investisseur le plus motivé, oui.
D'après le dossier, tout passe par le portail administratif rocas.ma. Et on y trouve une procédure avec un nom presque anachronique, l'enquête de Komodo Incommodo.
Ah oui, le Komodo Incommodo.
Concrètement, c'est une enquête publique de 15 jours. Et c'est une phase qui a de quoi donner des sueurs froides. On imagine le stress, des millions de dirhams sont mobilisés, les plans sont validés, les acomptes pour les équipements venus d'Europe ou de Chine sont versés.
Ouais.
Et le sort du projet est complètement suspendu à la vie du voisinage local.
Et si les riverains s'organisent ?
S'ils invoquent des craintes, genre sur la poussière agricole, le bruit permanent des broyeurs, ou les allers-retours incessants des poids lourds, bah, le projet peut être bloqué net.
C'est pour ça que l'impact psychologique et financier d'un tel blocage est immense. D'où l'importance stratégique, souvent sous-estimée d'ailleurs, du choix du terrain foncier.
Il ne faut pas se planter.
S'implanter sauvagement près d'une zone résidentielle, c'est un suicide entrepreneurial. L'intégration dans une zone industrielle officiellement validée est juste indispensable.
Pour sécuriser l'acceptation sociale, oui.
Et à ce parcours d'obstacles, bah, s'ajoute l'obligation stricte d'obtenir l'agrément de l'ONSS, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
C'est un peu le gendarme de la sécurité alimentaire.
C'est le gardien du temple. Cet organisme impose des normes draconiennes d'hygiène et de traçabilité. Sans sa validation, aucun gramme d'aliment ne peut légalement sortir de l'usine.
Bon, et disons qu'une fois que les murs sont debout, que les autorisations sont accrochées dans le bureau du directeur, bah, il faut s'attaquer au défi commercial.
Et là, c'est pas la pub à la télé qui va aider.
Exactement. Dans le monde agricole marocain, le marketing se fait pas avec de grandes campagnes d'affichage en centre-ville.
Non.
C'est du commerce professionnel très spécifique, ancré dans le tissu rural. Il faut construire la confiance. Et ça, ça se gagne physiquement, sur le terrain.
C'est un secteur où la poignée de main a encore valeur de contrat.
C'est beau, mais c'est exigeant. Ça passe par une présence assidue dans les souks hebdomadaires régionaux, par exemple.
Bah, le souk, c'est pas qu'un marché. C'est vraiment le cœur névralgique de l'information agricole. C'est là que les éleveurs partagent leur retour d'expérience.
Et il y a aussi une présence institutionnelle lors d'événements majeurs, non ?
Ouais, comme le SIAM, le Salon international de l'agriculture au Maroc. C'est crucial pour asseoir la crédibilité technique d'une nouvelle marque.
Tout à fait. Et le dossier souligne aussi une dimension digitale étonnamment puissante. Les éleveurs marocains sont ultra connectés. Ils sont organisés en immenses communautés sur les réseaux sociaux.
Et les groupes Facebook, WhatsApp.
Voilà. Et l'information sur la qualité d'un nouvel aliment, elle s'y propage à la vitesse de l'éclair. Une mauvaise série de granulés peut détruire une réputation en quelques heures sur ces plateformes.
C'est à double tranchant.
Ouais. Donc pour s'imposer positivement, la distribution d'échantillons gratuits et la livraison offerte pour les clients fidèles, c'est des leviers essentiels.
C'est du bon sens commercial.
Mais c'est au niveau de la gestion quotidienne que se cachent les véritables pièges capables de couler l'entreprise.
Tu penses aux risques opérationnels ?
Oui, ils sont considérables. Prenons la maintenance industrielle. Les équipements, bien que robustes, bah, ils subissent des contraintes extrêmes en broyant des céréales dures à longueur de journée.
C'est de la mécanique lourde.
Donc, une enveloppe budgétaire annuelle équivalente à 3% de la valeur des machines doit être sanctuarisée. Parce qu'une panne du broyeur principal, c'est pas un simple désagrément.
C'est une crise majeure.
C'est ça. Si la ligne s'arrête 48 heures, les clients ne peuvent pas mettre leurs élevages sur pause. Les animaux doivent manger.
L'éleveur ira immédiatement se fournir chez le concurrent.
Et potentiellement pour de bon. C'est une pression énorme sur la fiabilité technique.
Ouais, mais tu sais qu'il y a un péril encore plus silencieux et destructeur.
Ah oui ?
Lequel ?
La gestion des flux de trésorerie, le fameux besoin en fonds de roulement ou BFR. Ah, l'argent liquide.
Dans la tradition agricole, l'éleveur paie rarement la totalité de l'aliment à la livraison. Le cycle financier de l'élevage est fait comme ça. Le fermier achète les poussins, il les nourrit pendant un mois et demi, puis il revend les poulets adultes à l'abattoir.
Et c'est seulement à ce moment-là qu'il encaisse de l'argent.
Exactement. Et c'est là qu'il peut payer son fournisseur d'aliments. Ce décalage temporel, ça transforme l'usine d'aliments en une banque de fées.
Ah, je vois le danger. L'industriel décaisse d'énormes sommes pour acheter le maïs et le soja en cash sur les marchés internationaux. Il paye ses ouvriers.
L'électricité, le transport.
Et il doit attendre plusieurs semaines pour recouvrer ses factures.
C'est ça. Si ce crédit accordé au client n'est pas contrôlé d'une main de fer, la trésorerie s'évapore instantanément.
Ce qui provoque des faillites.
C'est la cause de mort clinique la plus fréquente des entreprises florissantes. Elles font faillite en ayant un carnet de commandes explosif, mais des comptes en banque totalement vides.
Donc il faut une discipline financière de fer. Imposer un délai de paiement ferme de 30 jours maximum et souvent exiger un acompte de 50% dès les premières transactions.
C'est vital.
Alors qu'est-ce que tout ça signifie au final ? La création d'une usine d'aliments composés en 2026, c'est une fenêtre d'investissement fascinante.
Tout à fait.
C'est un marché dopé par la collision de deux phénomènes titanesques. Le dérèglement climatique, qui anéantit la capacité naturelle de la Terre à nourrir les troupeaux.
Et l'urbanisation frénétique qui réclame des protéines à bas coût.
Voilà. Et la leçon la plus percutante de cette analyse, c'est vraiment la victoire de la flexibilité sur la force brute. Sur ce terrain spécifique, une logistique agile, une présence hyperlocale et un accompagnement technique et humain surpassent la puissance écrasante des usines géantes centralisées.
C'est une brillante illustration de la théorie selon laquelle les déséconomies d'échelle, notamment liées à la distribution, ça crée des niches extraordinairement profitables pour des acteurs de taille intermédiaire.
Pour notre auditoire, qu'on ait 8 millions de dirhams à investir demain ou qu'on s'intéresse simplement à la mécanique économique du monde, l'enseignement est universel.
C'est clair.
Les bouleversements majeurs de notre époque ne se traduisent pas toujours par des innovations technologiques rutilantes. Très souvent, ils transforment de manière invisible l'économie réelle, créant des puits de valeur inattendus au sein même des chaînes de production de nos biens les plus élémentaires. Les opportunités les plus solides se nichent parfois, dans un sac de granulés de maïs.
C'est très vrai. Mais, et c'est important, pour conclure, soulève quand même une question majeure, un paradoxe qui mérite qu'on s'y attarde.
Ah, lequel ?
Notre analyse montre que près de 80% des coûts de cette industrie très rentable reposent sur des matières premières, le maïs, le soja, qui sont très majoritairement importées d'autres continents.
Oui, on en a parlé.
Eh bien, à mesure que le changement climatique efface l'option du pâturage naturel, le pays bascule vers une dépendance absolue aux aliments composés. Si on pousse cette logique à son paroxysme, on réalise que la sécurité alimentaire de millions de citoyens...
Et la survie du cheptel tout entier.
Voilà. Tout ça finit par reposer presque exclusivement sur la fluidité des corridors maritimes internationaux et sur les récoltes de nations lointaines. C'est quand même une vulnérabilité géopolitique vertigineuse cachée au cœur d'un triomphe économique local.
C'est une réflexion fascinante. Et ça montre à quel point tout est interconnecté.
Exactement.